Bonjour, je m'appelle Pauline, j'ai 30 ans et je tricote. Je tiens la boutique Le Fil Café à Bayonne, dans le Pays Basque. C'est à la fois une mercerie spécialisée tricot et un salon de thé. Je vis à Bayonne et je suis originaire des Landes, d'où ce petit accent qui m'échappe parfois. Dans ce podcast, je parle de tricot, de crochet, de laine et de tout ce qui s'y rapporte, de près ou de loin. Le thème d'aujourd'hui est l'occasion d'apporter mon témoignage et mes réflexions sur l'entrepreneuriat dans le milieu du tricot, à travers toutes les problématiques très variées qui peuvent se présenter à moi. Il existe beaucoup d'activités professionnelles autour de la laine, à commencer par l'élevage tout simplement, mais aussi toutes les étapes de transformation, la vente de créations et de produits artisanaux, pas nécessairement qu'en tricot, mais aussi en feutrage par exemple, le modélisme, la création de patrons, etc. Moi, j'ai choisi une autre voie, celle du commerce de fil à tricoter. Et ça fait 9 mois maintenant que la boutique est ouverte. Comme il s'agit d'une reconversion professionnelle, je fais souvent le point sur mon activité. J'ai quitté un emploi dans lequel je m'épanouissais plus trop, et donc faire le point me permet de vérifier que la voie que j'ai choisie me satisfait et m'apporte une forme de fierté, d'épanouissement et de réalisation de soi, comme on dit. Comme dans tous les métiers, il y a de bons et de mauvais côtés. Prendre le temps de réfléchir, c'est aussi s'assurer que les mauvais côtés ne prennent pas le dessus sur les bons. Et si c'est le cas, de réfléchir à comment rectifier le tir. Le but final, c'est évidemment de garder toujours autant d'enthousiasme, toujours autant de motivation à me lever le matin. Ces dernières semaines ont été l'occasion de constater que parfois, la frustration prend le dessus et il m'arrive de me sentir découragée, voire même perdue face à la tâche. Donc cet épisode arrive à point nommé pour partager le fruit de mes réflexions. Alors commençons par les bons côtés. Allier passion et travail, ça me faisait peur au début. Peur de me lasser, peur de faire une overdose de tricot, peur de plus pouvoir voir mes aiguilles en peinture, etc. Mais au bout de 9 mois, alors certes 9 mois c'est quand même court comme expérience, mais c'est déjà pas mal, et je constate que c'est pas du tout le cas. Avoir une boutique de tricot m'ouvre au contraire plein de nouveaux horizons, ça m'apporte plein de nouvelles façons de voir les choses, plein de nouvelles pistes de réflexion. Le côté le plus agréable, c'est sans aucun doute de pouvoir évoluer au milieu de la laine. J'ai dit dans un épisode précédent que j'adorais la matière, les belles matières. Autant vous dire qu'au magasin, je suis servie. Ça aide quand même d'être entourée de belles choses toute la journée. Je m'amuse avec les coloris, je réagence les pelotes, les écheveaux sur les étagères. Je rêve à des associations de couleurs et de matières. J'imagine des tas de pulls jacquard. Je me paye vraiment le luxe de pouvoir piocher un écheveau et de passer de longues minutes à imaginer tout ce que je pourrais tricoter avec. Idem quand je reçois les commandes, c'est un peu Noël tous les jours. Ça fait rêver, hein, je sais. Alors, je profite largement de cet avantage que j'ai à passer mes journées entourées de laine. Et pour l'instant, je m'en lasse absolument pas. Le magasin m'a aussi permis de faire plein de nouvelles rencontres. Alors, moi, je suis pas vraiment quelqu'un d'extraverti. Je ne vais pas au-devant des gens comme ça de manière spontanée. Et le fait d'avoir une boutique de laine, ben, c'est les gens qui viennent à moi en fait. Et parmi les différentes clientes que j'ai eues, y en a qui sont devenues des fidèles, des habitués. Et je suis toujours hyper contente de les voir. Quand elles passent la porte, c'est un peu mon rayon de soleil de la journée. Surtout qu'il y a des journées qui sont quand même moins fun que d'autres. Je pense aux journées compta au début du mois, c'est pas mes préférées en général. Donc ça, c'est vraiment un point très positif que la boutique m'a apporté. Ensuite, je tricote effectivement beaucoup plus qu'avant, à un rythme beaucoup plus soutenu. Avant, je tricotais le soir et les week-ends, et un peu au moment de ma pause déjeuner, le midi, entre 15-20 minutes par là. Aujourd'hui, alors c'est très variable, mais en moyenne, je tricote 2 heures par jour au magasin. Et je remets ça le soir et le week-end. Mais je le fais vraiment de mon plein gré, hein. Je m'impose rien. Et voilà, parce que c'est bien de tricoter au magasin. De cette façon, je suis un peu ma propre vitrine. Ça incite souvent les personnes à rentrer et à entamer la conversation avec moi quand ils me voient tricoter depuis l'extérieur. Mais après, si j'en ai pas du tout envie, je m'oblige pas. Voilà, je tricote en plus que des projets qui me plaisent, donc soit pour moi, la plupart du temps c'est pour moi, soit pour quelques proches, j'allais dire triés sur le volet, mais je tricote pour des proches qui apprécient vraiment quelque chose de tricoté main, qui savent ce que ça représente en temps de travail et qui vont pas le laver dans la première lessive à la machine. Ou alors je tricote pour le magasin, je fais quelques modèles que j'expose, à condition vraiment que le projet me plaise ou soit à la rigueur l'occasion d'apprendre quelque chose. C'est ma règle et je m'y tiens car sinon je pense effectivement que je prendrais moins de plaisir à tricoter. Et puis ma limite, bien évidemment, c'est les diverses tendinites et autres douleurs articulaires qui m'arrivent quand je force un peu trop, donc bah là, pas le choix, hein, j'arrête. Mais c'est super dur parfois. Le tricot serait-il une drogue? Mystère. Un autre point me faisait peur avant de me lancer, et c'est toujours un sujet un peu délicat aujourd'hui, c'est l'évaluation. Pour moi, le tricot avant, c'était un loisir. Le fait d'en faire un métier, ça sort du cadre du loisir et ben, ça devient un moyen de gagner sa vie. Or, une activité commerciale, quelle qu'elle soit, est quelque chose de soumis à la critique, forcément, au jugement, à l'évaluation. Cette question-là, elle m'a beaucoup, beaucoup travaillé pendant les longs mois de préparation du projet. Alors, ça m'a rappelé une expérience que j'ai vécue il y a quelques années, il y a même pas mal d'années. Après mon bac, j'avais plusieurs options d'études supérieures possibles. Et pour me donner voilà, une autre possibilité, j'ai décidé de tenter une année de mise à niveau en art appliqué. Donc à l'époque, je faisais beaucoup de dessins, de peintures dans un atelier d'art plastique le samedi matin. Donc l'art plastique, les arts plastiques, c'était un moyen pour moi de m'amuser, c'était un loisir bah, qui en plus m'apportait pas mal de choses au point de vue personnel. Alors il faut savoir que les mises à niveau en art appliqué sont des classes assez sélectives. Déjà, il n'y a pas beaucoup d'élèves. Je crois que dans celles auxquelles j'ai postulé, donc j'avais postulé à Angoulême et à Toulouse, il y avait une quinzaine de places. Donc l'accès se fait d'abord sur dossier, la première sélection, et la deuxième sélection, si on a passé la première, sur concours. Donc moi j'ai passé ce concours à Toulouse, dans une salle immense où on était je sais pas combien. J'étais totalement paralysée de stress évidemment, hein, parce que j'avais la pression de réussir, mais aussi et surtout de réaliser qu'en fait on allait m'évaluer sur quelque chose que je faisais, mais vraiment sans prétention, juste parce que ça me faisait du bien et parce que ça me plaisait, voilà, tout simplement. Et je me suis dit qu'à partir d'un loisir, on allait me juger digne ou pas d'intégrer cette fameuse classe. Et j'ai réalisé que j'avais pas du tout, mais alors pas du tout envie de mêler loisir et évaluation de compétences. Et cette sensation-là, je l'ai retrouvé au moment de lancer mon projet, de le défendre déjà devant d'autres professionnels et de le défendre des fois face à certaines clientes aujourd'hui. Parce que ce que je propose dans mon magasin, c'est ma vision du tricot à moi. C'est les marques que j'aime moi, c'est les coloris qui me plaisent, que j'ai choisis. Quand je donne des conseils aux gens, je donne mes propres conseils qui dépendent de mon expérience personnelle. Par exemple, j'apprends aux personnes qui débutent à monter l'émail à deux aiguilles, parce que personnellement, je trouve que cette façon est plus simple à retenir quand on enchaîne avec des mailles en droit derrière. Et parce que aussi j'ai appris comme ça, donc il s'agit bien de mon expérience personnelle. Quand je fais les vitrines, je les fais avec mes goûts. Les modèles que j'expose, c'est des modèles qui me plaisent à moi. Et puis surtout, dans mon magasin, j'insuffle mes valeurs à moi, sur l'éthique, le bio, l'équitable, le vrac, le local, donc mes valeurs telles que moi je les conçois. Et En retour, ben, je suis soumise au jugement, à la critique. Alors moi, ça va être des avis Google ou Facebook, des commentaires divers sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, etc. Ce qui me fait peur, c'est que je sais que mon offre, et donc mes valeurs, ne parviennent pas à satisfaire tout le monde. Un exemple, il est souvent arrivé qu'une cliente vienne me voir avec un catalogue, alors disons Fildar, Ricoh, Bergère de France, parce qu'il y a un modèle dedans qu'elle aimerait réaliser. Mais Fildar, Ricoh, Bergère de France propose le plus souvent des fils avec de l'acrylique qui sont généralement peu chers. Alors j'insiste sur le fait que je généralise. Hein. Disons que le modèle, s'il est réalisé avec le fil bah, conseillé par le catalogue, coûte, on va dire, dans les 40 euros, par exemple. Sauf que moi, à la boutique, je ne propose pas les mêmes gammes de fils et pas dans les mêmes prix. Pour le même modèle, on va facilement jusqu'à 70-80 euros. Voire encore plus cher dans les gros fils autour de. On peut aller jusqu'à 100 euros, quoi. Quand je dis gros fil, c'est tout ce qui va se tricoter en 10, 12, voilà, c'est pas mal la tendance en plus en ce moment dans le tricot. Et il faut se dire voilà, on peut partir du principe que plus le fil est gros en diamètre et plus le vêtement est cher, quand on compare des fils de même composition, évidemment. Et donc avec le modèle à 80 euros, ben, je comprends que ma cliente renonce à l'achat. Vraiment, je comprends. Parce que quand on a 40 euros de budget pour se faire un pull ou pour faire un cadeau, on a 40 euros de budget, on n'a pas 80 euros. Mais le fait de décevoir, entre guillemets, cette partie de la clientèle qui cherche des laines bon marché, me tracasse vraiment. Alors avant, je tricotais pour moi, juste pour moi, et bah du coup, peu importe les avis des autres à ce moment-là. Si je tricotais un pull à 80 euros en 100% laine et qu'on me disait que quand même c'était trop cher, franchement, ça ne me faisait rien du tout. Mais maintenant, ce que pensent les autres de ma vision du tricot, c'est-à-dire celle que je mets dans ma boutique avec tout mon cœur, enfin, voilà, ce qu'ils pensent est important. Il faut que j'arrive à accepter que je n'arriverai jamais à satisfaire tout le monde, que les clientes déçues et les avis négatifs sont une éventualité et qu'il faut que je compose avec ça sans me sentir incompétente et sans me sentir démesurément blessée. Qui est très compliqué pour moi, mais je pense que je vais me roder un petit peu avec le temps. Alors heureusement pour moi, les avis sont plutôt positifs jusqu'à présent. J'avoue que j'ai eu rarement, très rarement, à faire face à des gens qui n'étaient pas contents. Donc je vais m'accrocher à ça pour le moment. Alors j'ai dit en intro qu'en ce moment, je me sentais découragée, perdue, voire même un peu frustrée. J'aurais préféré vous dire que tout était super et marchait comme sur des roulettes, mais ici, dans le podcast, comme sur le blog, ben, ma seule ligne éditoriale, c'est justement de ne pas en avoir. Je dis ce qui me passe par la tête, comme je le ressens. Je me prends vachement moins la tête comme ça. Alors, je vous dis ça, mais en même temps, j'ai enregistré cet épisode 4 fois avant que le résultat me convienne. Donc, au niveau prise de tête, ça va quoi. Alors, pourquoi? Pourquoi est-ce que je me sens découragée? Pourquoi est-ce que je suis un peu moins enthousiaste qu'au début? Ben, même moi, je ne sais pas trop répondre à cette question en fait. C'est justement pour ça que j'ai eu tant de difficultés à enregistrer cet épisode. Les mots ne venaient pas. Voilà, impossible de faire le tri dans mes pensées, d'y voir clair. Alors, je pense quand même que la toute première raison, c'est que je sens un décalage entre ce que je voulais faire et ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Alors, ce que je voulais faire, c'est la boutique de laine que j'aurais aimé trouver quand j'ai commencé à consommer différemment. Quand je suis passée au zéro déchet, petit à petit, j'ai compris que il fallait consommer moins mais mieux. Fonctionner en circuit le plus court possible, en étant attentive à la traçabilité et l'éthique des produits qu'on achète, pas seulement sur leur provenance, mais aussi sur comment les gens qui ont travaillé pour produire ont été traités, ont été payés. Donc naturellement, quand j'ai lancé mon projet de boutique de laine, j'ai voulu garder cette façon de penser et de consommer. Mais entre l'idée et le résultat final, il y a eu pas mal de concessions. Alors j'ai d'abord fait des concessions sur les travaux notamment, j'en ai parlé dans un article sur mon blog récemment, mais aussi et surtout sur l'offre de fil à tricoter. Alors je suis probablement pas la seule qui au moment de lancer un projet angoisse que ça ne marche pas, hein. Je pense que toutes les personnes qui un jour se sont lancées dans quelque chose ont toujours eu peur que ça ne marche pas. Du coup, moi, pour être sûre que ça marche ou pour calmer la plupart de mes angoisses, j'ai pas voulu tout miser sur les matières naturelles, sur le côté écolo, etc. Parce que j'ai vraiment eu peur que ça n'intéresse qu'un nombre trop restreint de personnes et que la majorité des clients et des clientes trouvent que mon offre était trop chère et donc inabordable pour eux. Alors, je réalise maintenant que c'était une erreur. Mais en même temps, si j'avais pas fait l'erreur, j'aurais pas réalisé que c'en était une. Alors c'est une erreur, je pense, parce que d'une part, vouloir satisfaire tout le monde, c'est une utopie. Hein, souvent le résultat, c'est qu'on ne parvient à satisfaire personne, en fait, ou en tout cas personne complètement. Et d'autre part, je constate qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui sont d'accord avec mes valeurs et qui aiment qu'on leur offre la possibilité d'acheter éco-responsable, même si c'est un peu plus cher. Alors moi au final, je me retrouve avec d'un côté une petite gamme de fils pas très chers qui contiennent de l'acrylique, et ces fils-là, ben, j'arrive pas à les vendre aussi bien que les autres, parce que je les aime moins, tout simplement, donc je les défends moins. Et de l'autre côté, j'ai mon autre offre de fils un peu plus qualitatif, mais aussi plus onéreux, que je cherche désespérément à développer, sans grand succès. Principalement pour trois raisons. C'est que 1, je n'ai pas assez de trésorerie pour faire rentrer de nouveaux fils. 2, je n'ai en plus pas la place de les stocker et de les mettre en rayon parce que j'ai déjà pas mal de stock. Et 3, je ne trouve pas de fil à tricoter en local, donc fabriqué dans ma région. Alors non pas parce qu'il n'en existe pas, hein, pas du tout, mais parce que les conditions de revente, enfin d'achat et de revente, sont défavorables soit pour moi, soit pour la personne qui me les vend, soit pour les deux. Donc grosso modo, c'est une histoire de marge. Actuellement, le modèle qui prédomine, c'est des petits éleveurs indépendants qui vendent leur production en vente directe, parce que c'est le seul moyen pour eux de faire une marge qui leur permet de manger, hein, tout simplement. Donc si moi je veux vendre au même prix que leurs fils, il faut que je leur achète moins cher parce que moi aussi il faut que je fasse ma marge pour manger, moi aussi. Et donc si je leur achète moins cher, ben, eux ils gagnent moins d'argent. Donc ça les intéresse pas forcément. Et moi si la marge est trop petite, ben ça ne m'intéresse pas forcément non plus. Et des fois il y a aussi une condition de stock minimum ou de nombre minimum de pelotes à acheter qui, moi, me coince un peu parce que je suis pas sûre de toutes les vendre, donc j'ai pas envie de faire entrer trop de stock d'un coup. Je me sens donc coincée avec une offre en demi-teinte qui ne me satisfait pas complètement. Je regrette beaucoup d'avoir fait toutes ces concessions, même si le raisonnement de base me paraît tout à fait sensé. Plusieurs personnes m'ont souvent parlé de ça d'ailleurs et je comprends très bien ce raisonnement. On m'a souvent suggéré d'avoir une marque, par exemple, plus accessible, moins chère, de fil plutôt fantasy avec des matières synthétiques qui serviraient en quelque sorte de produit d'appel. Mais c'est précisément ce que j'ai essayé de faire et c'est précisément ce qui ne fonctionne pas très bien aujourd'hui. Parce que la réalité, c'est qu'on ne peut pas bien vendre un produit en lequel on ne croit pas, tout simplement. La deuxième raison pour laquelle je me sens déboussolée, c'est que j'ai l'impression d'avoir un double discours. D'un côté, je vous parle sur les réseaux sociaux de consommation responsable, d'acheter moins mais d'acheter mieux. Et de l'autre côté, eh ben, j'ai un magasin dont la raison d'être est de vendre, justement, et mon intérêt, c'est que vous achetiez des choses chez moi, parce que c'est avec la vente que je peux gagner de l'argent et donc vivre de cette activité. Donc je me retrouve prise entre deux discours très contradictoires. Alors certes, j'ai pas besoin de gagner énormément d'argent pour payer les charges du magasin et mon salaire éventuel, parce que au magasin comme dans ma vie privée, je dépense pas énormément, j'ai un train de vie assez minimaliste et je vis pas dans une région, dans une ville où la vie est chère, mais j'ai du mal avec le principe. Alors je me pose beaucoup la question en ce moment, existe-t-il réellement un modèle de magasin qui ne pousse pas à la consommation déraisonnée et qui soit viable financièrement? J'ai quelques pistes de réflexion, bien sûr. Alors déjà parce que je ne vends pas que de la marchandise, j'ai aussi un salon de thé et je donne des cours de tricot et de crochet. Je vends donc des moments, entre guillemets, et des services. Ce qui n'est quand même pas tout à fait la même chose que de vendre des petits objets en plastique qui finiront brûlés ou au milieu de l'océan dans moins d'un an. Mais c'est loin d'être la partie la plus rémunératrice de mon activité. C'est pas sur ça que je gagne le plus d'argent. Si je veux survivre financièrement, je dois surtout compter sur la laine et la mercerie. Et même si j'ai choisi de ne pas vendre d'aiguilles en plastique, ce qui surprend parfois et déplaît à certaines personnes, c'était un choix, mais même si j'ai fait ce choix, cette matière, la matière plastique est très présente dans mes rayons. Pensez par exemple aux câbles d'aiguilles circulaires, aux fils à chaussettes qui contiennent du nylon, à tous les petits accessoires type contrant, jauge à aiguilles, etc. Alors certes, ce sont des équipements qu'on achète généralement qu'une seule fois, notre but étant de les faire durer. Personne n'a réellement besoin de racheter une jauge à aiguilles tous les 2 mois, par exemple. Une fois qu'on en a une, en général, ça suffit. Mais alors, dans ce cas, est-ce que je peux faire vivre mon entreprise avec ça? Eh bien, je ne sais pas. Je me pose vraiment, vraiment beaucoup de questions. Alors, toutefois, j'ai très envie de continuer pour voir justement si mon idée peut marcher. Comme on m'a souvent répété, nul besoin d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer. C'est une phrase à laquelle je m'accroche beaucoup. Je pense aussi que il faut que je me préserve un peu plus. Comme ça fait pas tout à fait un an que la boutique est ouverte, j'y vais à fond. J'essaye d'être présente le plus possible, d'avoir des horaires d'ouverture larges pour essayer toujours de satisfaire ma clientèle. Donc, j'ai ouvert jusqu'à maintenant quasiment tous les jours fériés. À partir de maintenant, je pense que je vais un petit peu calmer le jeu par rapport à ça et m'octroyer aussi de temps en temps des jours où je fais autre chose. J'ai pas envie de me résumer entièrement à cette activité. Voilà, je suis donc cette personne qui tient le magasin, mais je suis aussi quelqu'un d'autre le soir, le week-end et quand je m'octroie des congés. Et voilà, je pense qu'il faut pas que je. Il faut que je me préserve un petit peu et pas que je sois tout le temps la tête dans le guidon. C'est un conseil qu'on m'a beaucoup donné dernièrement et je pense qu'il est très avisé. Par rapport à cette activité et cette envie de la rendre la plus éco-responsable possible et par rapport à toutes les réflexions que je viens de vous livrer, c'est vrai que souvent la conclusion que je me dis, c'est que peut-être je vais droit dans le mur. Peut-être. Mais au moins j'aurais essayé. Je vais peut-être faire des erreurs, c'est même certain, j'en ai d'ailleurs déjà fait. Mais si je fais beaucoup d'erreurs, je me dis que ça servira peut-être à ce que d'autres après moi ne les fassent pas. Donc ça aura au moins eu un impact positif. Voilà mes réflexions du moment. Si vous avez envie de réagir à tout ce que j'ai dit, envie de me faire des suggestions, de me donner des idées, ou envie de dire que vous n'êtes pas d'accord, c'est tout à fait possible aussi. Eh bien, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un commentaire sur le blog ou sur les réseaux sociaux. Je voulais aussi vous dire qu'il n'y aura pas d'épisode en décembre, car je serai, je pense, en plein préparatif de la période des fêtes de fin d'année. Donc là aussi, vous voyez, j'essaye de me préserver un petit peu. Je ne veux pas me mettre trop de choses à faire si ça doit me stresser démesurément. Alors à la place, je vous propose de suivre mes aventures avec le Wardrobe Architect. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est un projet de garde-robe capsule. Donc j'ai rédigé déjà une partie des articles que je vais publier petit à petit sur le blog jusqu'au début de l'année prochaine. Donc moi, je vous retrouve en janvier pour un nouvel épisode de podcast. Et d'ici là, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt.